Donc je ne vais pas redire ce que vous avez dit, bien entendu, sur cette question de la régulation et du contrat. Simplement peut-être deux ou trois choses qu'on peut préciser. Donc on va attribuer à la régulation, on peut identifier la régulation, qui est un terme plutôt pédagogique ou didactique, à ce que les psychologues appellent le contrôle exécutif. C'est des choses qui s'étudient en particulier dans les situations de déséquilibre, c'est-à-dire par exemple les gens victimes d'Alzheimer, de maladies comme ça, de dégénérescence, qui à certains moments perdent le contrôle de leurs actions, par exemple en perdant la mémoire, en se rappelant plus les lieux où ils viennent de passer, etc. Et l'apprenant, d'une certaine manière, c'est un peu risqué de dire ça, il ressemble à ces personnes qui ont des déficits parce que lui, il est en construction de son système. Donc, ce n'est pas un expert en termes de régulation. Et du coup, notre travail, c'est bien de lui apprendre, de lui enseigner cela. C'est-à-dire qu'on est dans une trajectoire dynamique. Pour que cette trajectoire dynamique fonctionne, il faut penser le rapport de la régulation à l'action. Et c'est pour ça que vous avez mis ça plutôt du côté de la production, hein, dans votre schéma. C'est-à-dire qu'on va définir les moments de régulation par rapport aux moments d'évaluation. C'est très proche, hein. L'évaluation, la régulation... on est dans du métacognitif. On est dans la connaissance de ce qu'on fait pour faire l'action. Il y a les capacités cognitives, celles qui servent à accomplir l'action effective, et puis il y a les capacités métacognitives, celles qui servent à analyser les premières. Donc on franchit une étape, on est dans le domaine méta, on est au-dessus. Et on va médiatiser, on va verbaliser ce qu'on a fait pour. Cette médiatisation est essentielle au processus d'apprentissage, sinon on est dans le faire, et uniquement le faire, qui ne suffit pas à apprendre. Mais elle pose problème, le rapport à l'action pose problème. On voudrait idéalement que les élèves réinvestissent, comme on dit, tout de suite ce qu'ils ont modélisé, et en réalité ça ne se passe pas comme ça. Quand on modélise, on décontextualise cette connaissance ou cette capacité, et après il y a tout un processus de recontextualisation, de remise dans une situation réelle, qui est un véritable problème et qui nécessite toutes les petites patates que vous indiquez, parce qu'il y a des dérèglements affectifs, on n'y arrive pas, on se décourage, on oublie, on... Voilà. Donc, après la décontextualisation, il faut penser le moment où ce qu'on a nommé, ce qu'on a isolé, se recontextualise, se reprocéduralise aussi, le terme que tu as employé hier, Michel. Et ça appartient entièrement au rôle de l'enseignant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il conçoive sa situation comme permettant aux élèves ce mouvement de recontextualisation. Il ne suffit pas de penser que on a focalisé, on a isolé, on a formulé, on a modélisé, c'est important, mais après il faut penser les situations qui vont permettre aux élèves de recontextualiser, c'est-à-dire de remettre en situation complexe. C'est ce qu'on appelle l'entraînement, souvent. Ça me gêne un petit peu qu'on appelle ça l'entraînement, parce que ça renvoie à un modèle d'acquisition par répétition. Or, c'est un véritable processus de construction, et non pas de répétition du modèle préconçu, et on croit linéairement que l'enfant, l'élève, va appliquer la connaissance, ce qui est une erreur totale. On n'applique pas de modèle préalable, on les reconstruit sur un autre plan que le plan du discours, le plan du verbal, qui est celui de la modélisation. On les reconstruit sur le plan de l'action. Il nous faut donc une connaissance qu'on peut appeler déclarative, figurative, générique. C'est-à-dire, par exemple, une recette de cuisine, c'est composé de quoi ? Il faut savoir de quelles actions une recette de cuisine est composée. Mais savoir de quelles actions une recette de cuisine est composée c'est presque ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que les élèves savent en quoi consiste l'action qu'ils vont être capables de la faire. Il faut donc un nouvel apprentissage qui est, lui, l'apprentissage procédural. Apprentissage déclaratif, modélisation, apprentissage procédural, c'est cette recontextualisation, cette remise en tâche complexe. C'est un processus complexe qu'on zappe complètement quand on dit « Ah ben, ils n'appliquent pas. Ah ben, je leur ai dit et puis ils n'appliquent pas. » Tout à fait. Mais cette mémorisation est pour moi un produit de ce travail de reconstruction. C'est-à-dire, lorsque je l'ai reconstruit, c'est mémorisé. C'est pas quelque chose en soi, pour moi. Hein. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Exactement. Ça peut prendre même plusieurs années, éventuellement. Et ça correspond, me semble-t-il, ce type de... merci pour ton intervention, qui, à mon avis, correspond bien à ce qu'on a appelé hier intégration. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut plus qu'on pense qu'on sait ça, quoi. Il faut qu'on s'abstrait du modèle formalisé, et puis on agit. Mais ce n'est pas l'action implicite qu'on était capable de faire avant. C'est une action qui est toujours réversible en quelque sorte, c'est-à-dire que le modèle reste disponible, même si on n'y pense plus quand on fait l'action. Alors, juste peut-être une petite nuance, c'est que, attention de ne pas limiter le problème à un processus biologique. Il est culturel d'abord, c'est-à-dire c'est à nous d'installer, il ne faut pas dire ah ben, ça va se faire, c'est à nous d'installer les situations qui font que ça va se faire. Donc voilà les deux choses que je voulais, une ou deux choses que je voulais rajouter sur la régulation, sur le contrat maintenant. Surtout ne pas confondre le contrat avec la chose qu'on va signer chez le notaire ou le règlement, ou c'est pas ça. Bien que on puisse aller vers des choses comme ça, et on voit une dérive possible, on en a parlé à propos de technocratie, si le contrat, à force d'être explicité, devient un corps de loi absolument ingérable, auquel on va se référer tout le temps, et qui devient imbuvable, quoi. Ah ben, est-ce que t'as pensé à ceci ? Voilà, les réglementations qu'on connaît dans la bureaucratie, il faut pas qu'on les transpose dans la classe. Mais donc, c'est pas vraiment ce modèle-là. Le contrat, c'est un concept qui est emprunté à Jean-Jacques Rousseau, contrat social. D'accord ? Le contrat social, surtout à l'époque de Rousseau, il existe nulle part. Il est écrit nulle part. C'est un contrat implicite qui fait que les partenaires du contrat attendent des autres partenaires, si on peut appeler ça partenaire, des fois, attendent des autres un certain type de comportement. À l'école, il se passe exactement la même chose. Le prof attend des élèves un certain type de comportement. L'élève attend du prof un certain type de comportement. On a vu hier que, miraculeusement, avec les groupes experts, non experts, ça correspondait. C'est-à-dire que les profs non experts pensaient comme les élèves non experts et les profs experts pensaient comme les élèves experts. Voilà. Donc, ça tombe bien, mais le problème, c'est que on a des fois des profs experts avec des élèves non experts et des profs non experts avec des élèves experts ou qui ont été éduqués à d'autres pratiques et qui vont poser des problèmes aux profs qui revient à des pratiques antérieures. Donc, le contrat didactique apparaît dans ses effets lorsqu'il y a un malentendu qui se crée et qui crée un problème, un conflit dans la classe, un désaccord. Il existe tout le temps. Mais c'est comme la maladie, hein, on est en bonne santé tant qu'on n'est pas malade, quoi. La maladie révèle des problèmes, là c'est un peu pareil, les malentendus vont révéler l'existence du contrat et vont rendre explicites les malentendus, les attentes divergentes. Par exemple, ben, le prof pensant bien faire, met les élèves en groupe en pensant qu'ils vont travailler, qu'ils vont échanger pour élaborer une tâche, et puis les élèves se mettent à bavarder. Parce que les élèves ont en tête que dès qu'ils sont face à un copain et pas en rang d'oignon, c'est que le prof est cool et que on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Donc on voit bien là des effets de contrat créent des malentendus pédagogiques. Et lorsqu'on essaie de transformer les choses, on se heurte constamment à ce genre de choses. Combien de fois j'ai entendu dire « Oui, j'essaye bien de pas les noter, mais ils réclament des notes. » Ben, forcément. Ils ont été abreuvés à ça toute leur vie d'élève. Et puis le prof d'espagnol ou d'anglais, il débarque en plein milieu d'année de première, et puis il dit, ah ben je note plus. Mais il a derrière lui 15 ans d'éducation aux notes. 15 ans où c'est normal d'être noté, où c'est normal de travailler pour un salaire qui est d'avoir la moyenne. Ou... Comment l'élève pourrait-il comprendre la raison pour laquelle l'enseignant ne note pas ce travail-là? Voilà. Et donc, on les voit évidemment très couramment, dès qu'on essaie de transformer un peu ces représentations, on les voit apparaître. Et quelle est la solution? Eh ben, elle relève de ce qu'on a appelé la régulation tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va l'expliciter. On va expliciter les choses. Les expliciter de manière focalisée, pas tout en même temps, etc. Mais il va falloir faire passer cet habitus, le terme de Bourdieu, ce comportement, cette culture intégrée, il va falloir la faire accéder à un niveau de conscience. Oui, on peut faire comme ça, mais il y en a d'autres qui font comme ça, donc on peut comparer. Et il va falloir qu'on crée des situations dans lesquelles les élèves vont se construire une nouvelle expérience qui correspond à ce qu'on voudrait les voir évoluer, ce vers quoi on voudrait les voir évoluer. Donc, les deux, vous voyez que l'évolution du contrat didactique, le passage d'un contrat didactique, on va dire, minimaliste, qui est le prof maîtrise ses savoirs et les transmet aux élèves en déléguant aux élèves la responsabilité intégrale de l'intégration des savoirs, contrat type cours magistral en fac, si vous voulez, hein, ou communication en colloque. En colloque, qu'est-ce que font les chercheurs? Ils présentent leurs recherches, puis démerdez-vous pour comprendre, quoi. Vous avez 5 minutes pour poser des questions, et puis c'est tout. Hein? Oui, t'as un temps de débat, mais c'est très peu. C'est très peu, en général, ça bourre dans les colloques, hein. 20 minutes d'intervention, 10 minutes de questions. Il y a en général que les spécialistes du champ qui posent les questions, sinon les autres, ils ont peur d'avoir l'air ridicule, etc. Donc, mais bon, c'est un contrat. La communauté scientifique fonctionne de cette manière-là. À l'opposé, on va avoir un contrat qui est que le prof se sent responsable de la compréhension par les élèves du savoir qu'il leur transmet. Donc, ça va le conduire à créer les conditions de la compréhension. Il suffit pas qu'il maîtrise le savoir, il faut aussi qu'il maîtrise les situations dans lesquelles le savoir va être transmis. Et là, eh ben, c'est pas évident auprès de nombre de collègues, comme auprès de nombre d'élèves. Combien d'élèves considèrent que leur rôle en classe, c'est de rester assis et de prendre des notes? Contrat minimum qui correspond au contrat minimum du côté prof. Hein? Et puis, si on les fait bouger, si on les fait si on les met en situation, si on leur fait jouer des jeux de rôle, c'est la panique. On a peur d'être ridicule. On a peur. On se demande pourquoi on doit bouger, etc. Et il y a certaines cultures qui sont extrêmement, enfin je veux dire des gens de certaines cultures qui sont extrêmement difficiles à faire bouger parce qu'ils ont une représentation tellement pyramidale du savoir et de la transmission. Je pense à certains pays asiatiques, le Japon, à certains pays arabes, où il y a un respect de la parole du maître qui est complètement, des situations d'interaction deviennent choquantes. Par exemple, moi j'ai eu en master, j'ai eu des Asiatiques, jamais ils ne te disent qu'ils n'ont pas compris. Jamais. C'est insultant pour le maître. Voilà. Donc il faut qu'on soit bien conscient de ces effets contrats et qu'on arrive à les faire évoluer. Évidemment, ça passe par ce qu'on a dit qui correspond aux situations de régulation. Voilà. Donc, un deuxième sens peut-être de la régulation, mais qui est évidemment lié à ce contrat didactique et contrat pédagogique, c'est que il n'y a pas un seul type de contrat. L'idée qu'il pourrait y avoir un seul type de contrat idéal est une idée à jeter au panier. C'est une idée dogmatique. On tend, comme le montrait l'affiche du dernier groupe, on tend vers une situation qu'on a appelé hier, que Colette a appelé dans son atelier, la situation adidactique. Les termes que j'emploie viennent de la didactique des mathématiques, Guy Brousseau, hein, mais on les retrouve dans la didactique de l'EPS, etc. Donc, les situations adidactiques sont celles dans lesquelles l'élève gère tous les paramètres de la situation. Comme s'il était sans prof, sauf qu'il est encore à l'école, et que la situation, c'est quand même le prof qui l'a préparé. D'accord ? Mais une fois qu'il l'a préparée, elle fonctionne avec sa propre dynamique. Ça, on va dire que c'est ce vers quoi on tend. Pourquoi on tend vers ça ? Ben parce qu'un jour ou l'autre, les élèves ne seront plus avec un prof. C'est-à-dire qu'ils seront dans une situation non didactique et qu'il faut qu'on les prépare dès l'école à cette situation. Parce que si on continue à dire « Ah ben ils sont pas autonomes, donc je les guide », eh ben le jour où ils le seront par force, puisqu'ils auront atteint l'âge de quitter le système éducatif, ils seront, comme on dit, comme on entend dire, qui est un peu impensif, mais qui est pas dénué de réalité, « Ah ben, je suis même pas capable de demander mon chemin pour trouver la poste à Londres, quoi, alors que j'ai fait 8 ans d'anglais ». Eh ben oui, mais parce que on t'a jamais mis, d'une certaine manière, dans la situation adidactique de devoir trouver ton chemin par toi-même et te débrouiller avec tes ressources. Voilà. Donc cet accompagnement pose un problème sur lequel je vais revenir. Voilà, alors on a peut-être juste pour terminer, sur l'autonomie, avec l'atelier, les deux ateliers régulation ont traité du côté cognitif de l'autonomie ou des compétences, pour moi c'est vraiment synonyme, ont traité du côté cognitif, avec l'idée de contrat, ont traité du côté social. Il y a 4 dimensions, une dont on parlera plus cet après-midi, qui est la dimension éthique, une qui est la dimension sociale, contrat, une qui est la dimension cognitive, régulation, entre autres, disons métacognition, et une qui est la dimension effective. C'est-à-dire, il faut être capable de réaliser réellement les actions. Et c'est ça sur lequel je voudrais vous entretenir pendant un quart d'heure à 20 minutes, peut-être un petit peu plus, et qui va m'amener à revenir sur les ateliers du matin, les 3 ateliers du matin. Alors, si vous voulez, je prends un tout petit temps d'arrêt pour pas dérouler un discours. Et puis, donc, voilà, réagissez pour l'instant à ce que je viens de dire, et puis on continuera après, on va mettre une petite pause. Donc, on va s'occuper, c'est ce que j'ai appelé l'autonomie langagière, et donc c'est effectivement ce qu'on fait pour réaliser les tâches. Donc, sur la première partie, là, la réaction à contrat et régulation, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir éclaircir ou... Bon, ok, il ne sera pas trop tard. Donc, on va rentrer dans un deuxième aspect de la synthèse qui est plus lié aux activités du matin et qui est l'autonomie langagière, donc sociale, esthétique, pardon, éthique, cet après-midi on en parlera, et cognitive ou métacognitive, et maintenant donc effective, et pour nous l'effectif c'est les actions langagières, donc c'est le cœur de notre métier, disons, hein. Alors, je commence par une citation d'un prof de sciences du langage de Genève, Eddy Roulet. Il doit être à la retraite actuellement, hein, mais enfin bon, ça n'empêche pas que ce qu'il a écrit soit fort intéressant. Dans un livre que je vous conseille de lire par rapport à toutes les questions qu'on a discutées hier matin en particulier, et dont je vous mets le titre, c'est dans la collection LAL, Langue et apprentissage des langues, la description de l'organisation du discours. Donc c'est Eddy Roulet, Genève, Université de Genève. Voilà ce que dit Eddy Roulet à propos des pratiques de langue. Et ce qu'il dit là doit dater de 97 ou quelque chose comme ça, la fin des années 90, mais à mon avis, il n'y a pratiquement pas eu d'évolution sensible par rapport à ce constat. En gros, il nous dit, à nous enseignants, vous vous trompez d'objet. Vous croyez que vous enseignez aux élèves, que vous devez enseigner aux élèves à faire des phrases. Hein? C'est ce qui est un caractère simple. Ou pire, à utiliser des sacs de mots et de règles. en primaire où j'ai traîné mes guêtres pendant quasiment 20 ans, le lexicalisme est une horreur. On va faire les couleurs, on va faire les jours, on va faire les mois, on va faire les verbes d'action, on va faire, voilà. Donc on apprend des listes de mots et puis on n'en fait rien. Mais on peut aussi apprendre des conjugaisons, c'est du même acabit, hein. Et donc on a des sacs de mots, on a des sacs de règles, et puis on se dit, ils ont tous les éléments pour construire, et puis sauf qu'on a loupé l'essentiel. Or cet essentiel, c'est de passer d'une représentation phrastique, c'est-à-dire on enseigne des phrases, à une représentation textuelle, discursive, c'est-à-dire qu'on va hausser l'unité minimale, l'unité didactique minimale dont on s'occupe, qui est le texte et non pas la phrase. Vous reconnaîtrez les dimensions qu'on a déjà plusieurs fois vues l'an dernier, puis à l'occasion de plein de stages, entre le niveau linguistique, qui continue à exister évidemment, le niveau textuel et le niveau de la situation. Juste une précision sur texte et genre. En dessous là de la diapo, vous avez des textes que j'ai appelés empiriques. Empirique, ça veut dire c'est les textes réels. Voilà, les textes empiriques. On est constamment soumis à des textes empiriques. Les genres n'existent pas. Jamais personne vous dit j'ai produit un genre. On produit un texte ou on lit un texte. Texte écrit oral, hein, entendons-nous bien. Texte ne veut pas dire écrit. Texte, c'est un objet qui est écrit comme oral. Donc on est confronté à des textes, et puis ces textes, ils sont pas tous pareils, fort heureusement, sinon... Mais il y a quand même des invariants, et c'est la somme de ces invariants et de ces variables qui constitue un phénomène qu'on peut qualifier de socio-historique, qui est un genre. Par exemple, je sais pas, prenons le domaine de la musique, il y a 30 ans, le rap, ça n'existait pas. C'est un genre musical qui s'est créé. Et puis, il y a 2000 ans, on écrivait des épopées. Puis, qui écrit des épopées actuellement? On n'écrit plus d'épopées. Ça continue à exister parce qu'on lit les épopées du passé. Mais plus personne n'écrit des épopées, enfin, il me semble. Donc, les genres apparaissent, naissent, se développent et meurent. Et de manière parfois très rapide. C'est un peu comme la mode. Moins rapide, mais ça peut être un peu ça. Puis, il y a des choses qui restent stables. Donc, les genres, c'est invariant. Variable. Comment qualifier le genre? Au niveau didactique, avec nos élèves, ce que j'appelle la hiérarchie suffit, dans la plus grande partie des cas, à qualifier un genre. Un genre se définit par une hiérarchie entre des types d'actions langagières. Alors, tout le monde se souvient, je pense, de la notion de fonction langagière qui nous était communiquée à l'époque de l'approche communicative et qui reste d'ailleurs en vigueur. Hein. En linguistique, on appelle ça les actes de langage, c'est-à-dire c'est l'unité pragmatique de base, l'action de base. Se présenter, donner un conseil, donner son avis, dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelque chose. C'est la plus petite action possible avec la langue. En dessous de ça, il n'y a pas d'autre action. C'est une unité indécomposable. Ça, c'est l'unité de base. Si vous regroupez des actes de langage, les fonctions langagières, ça devient des actions qui sont composées de plusieurs actions. Et si vous regroupez des actions, ça devient des superactions. Et à un moment donné, ça devient ce qu'on appelle dans le cadre européen une tâche qui a une dimension langagière, le texte, et une dimension non langagière, tout ce qu'il y a autour du texte et qui implique l'existence du texte. Donc, ces trois niveaux hiérarchiques, acte, action, tâche, c'est ce qu'on a analysé hier. Et je vous montre un petit modèle très rapide à propos d'une carte postale, mais peu importe, certains d'entre vous l'ont vu. Donc, ma tâche ou mon texte à écrire. Donc, la tâche, c'est le texte en contexte, hein, que vous voyez sur cette première ligne. La carte postale, on peut la décomposer en actions. Voilà, est-ce que vous reconnaissez les actions caractéristiques qu'on doit trouver dans une carte postale? Elles sont en désordre, mais peu importe. Toutes ne sont pas obligatoires. Vous les voyez là, ici? Toutes ne sont pas obligatoires, mais il y en a certaines qui le sont, sinon c'est plus une carte postale. Chacune de ces actions peut être développé en sous-action. Pour parler d'un paysage ou d'un monument, je dois le situer et je dois en faire une description succincte et je dois dire mes impressions sur ce monument. Enfin, je dois. On s'attend à ce que... Hein? Et puis, ben, on va retomber dans les actes de langage, on va redescendre au niveau des actes de langage, voilà. Et puis en dessous, on va tomber sur la langue. Donc je vais passer vite. Vous retrouvez cette structure-là, à un niveau évidemment bien plus complexe, dans l'atelier de Loïc hier. Hein? Donc on va faire des liens comme ça, hein, entre les ateliers qu'on a vécu hier et ce panorama. Donc la structure hiérarchique, est-ce que les gens qui étaient avec Loïc, vous voyez bien cette structure hiérarchique de la... Ça vous dit quelque chose? C'est apparu? Oui, d'accord. Bon, donc on va reconnaître un texte à cette structure hiérarchique. Sauf que Michel n'est pas là, qui animait l'atelier d'écriture, mais dans son atelier d'écriture, la structure hiérarchique des textes, pour ceux qui étaient dans son atelier, eh ben, il fallait qu'on la cherche. Il n'y en avait pas ou très peu. C'est-à-dire que la pyramide était très aplatie. Et c'est un deuxième type de structure. J'avais emprunté un texte de Deleuze sur l'écriture rhizome. Vous voyez ce que c'est les rhizomes? Les rhizomes, c'est les racines qui se répandent. Et la caractéristique du rhizome, c'est qu'il n'y a pas de tronc. Et donc on va avoir une écriture arborescente. Le texte arborescent, c'est typiquement l'émission que vous a présenté Loïc, et le texte rhizome, ça va être l'atelier d'écriture qui fonctionne non pas par hiérarchisation, mais par connexion. Et vous pouvez avoir des textes intermédiaires. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'atelier de Nadège et de Jean-Paul, de ce point de vue-là? Et voilà, vous aviez des textes hybrides, hein, qui tendaient pour certains vers plus de planification, hiérarchisation, etc., et pour d'autres qui tendaient vers un flot, un flux de paroles. Donc, le premier élément auquel on reconnaît un genre, c'est cette structure, et on pourrait dire, ça suffit avec la majeure partie de nos élèves, on va pas plus loin, on leur fait trouver la structure type des textes qu'ils doivent produire, identifier quelles sont les actions principales, si c'est rhizome plutôt, ou si c'est arbre, avec un tronc et des branches, et on veut pas en faire des profs de linguistique ou d'analyse du discours, ça suffit dans la majeure partie des cas. Donc, je vous mettais un autre exemple. Demander un service à son voisin, par exemple, j'ai pas deux, tu pourrais m'en passer, etc. On retrouve exactement le même genre de structure. Je précise une chose, c'est que vous le retrouvez ça dans le cadre européen. Il faut le lire, le cadre européen, c'est des fois assez sympa. Donc, je vais retrouver le... Voilà. Je vous ai trouvé à la page 99 cet extrait du cadre européen, et ils appellent ça un schéma. Donc, c'est rien d'autre que ce que je viens de vous montrer pour la carte postale. Et donc, on vous dit que le processus de transaction commerciale peut être représenté de manière schématique, ce qui permet de décrire les interactions lors de l'achat de marchandises, comme première étape, se rendre à l'endroit, ça semble évident, mais bon, établir le contact, etc. Et vous voyez la hiérarchie qui n'est pas représentée de la même manière, mais c'est les numérotations qui, voilà, plus on descend dans la numérotation, plus on est vers les actes de langage, demander conseil, par exemple, le 3-3, donner des informations, c'est typiquement la formulation des actes de langage. Hein? Voilà. Donc, cette manière de voir les choses est explicitée dans le cadre européen, à condition qu'on veuille bien utiliser le cadre européen, autrement qu'en isolant les grilles d'évaluation. Hein? Donc, il faut aller voir, il y a beaucoup de choses sur le texte. Malheureusement, ces choses-là ne transparaissent pas dans les discours officiels. Si vous voulez, on peut faire un pari. Je vous mets au défi de trouver le mot texte dans la description des épreuves de bac, compréhension et expression prochaine. Vous allez trouver plein de termes. Vous allez trouver document, vous allez trouver support, d'autres choses, comment ? Dossier. Alors, dossier, on peut dire que c'est un genre. On tombe sur un genre. Mais un document, ben, une photo, c'est un document. Un support, c'est pas un document. Un support, c'est support papier, support écran, support numérique, support... Et on emploie de manière complètement indifférenciée. Alors, dans la même phrase ou le même paragraphe, vous allez voir, pour désigner le même objet, un support et un document. C'est pareil. C'est comme si c'était des synonymes. Comment voulez-vous que des enseignants, face à ce genre de texte, s'y retrouvent ? C'est pas possible. Si les rédacteurs de ces textes sont dans une telle confusion conceptuelle, c'est pas anodin, nom d'une pipe. Ça veut dire qu'on rend opaque l'objet qu'on doit enseigner. C'est incroyable. Voilà. Donc, c'est dû, pour moi, à la formation des enseignants qui passent par les facs de langue, alors qu'il faudrait qu'elles passent par les facs de sciences du langage. Parce qu'en sciences du langage, ce genre de choses, ça s'étudie. Mais non, nous, en fac de langue, on reste bloqué sur la grammaire. Je caricature peut-être un peu, ça dépend des endroits, mais enfin, on reste bloqué au niveau de la phrase. Donc, voilà, je referme le cadre européen, explorez-le. Voilà. Est-ce que, jusqu'à présent, ça va à peu près ? Il y a des remarques, des choses comme ça ? Non ? Alors, le problème avec ce genre de représentation du genre, dont je vous ai dit que ça suffisait, c'est qu'en fait, ça ne suffit pas tout à fait, quoi. Parce qu'il se produit plein de choses. Il se produit plein de choses qui nous échappent quand on n'a que cette représentation du texte. Et ces choses font partie d'un cran en dessous. Donc, ce que je vous ai montré, c'est, on va dire, la structure. Et il y a plein d'éléments qui déterminent le texte, qui sont en dessous, et qui posent des problèmes incroyables qu'on ne maîtrise pas si on n'est pas conscient que ces problèmes-là existent et de leurs sources. Et c'est ça qu'on va essayer de balayer rapidement. Et là, sur chacun des petits bouts que je vais vous montrer, essayez de repenser aux ateliers d'hier et de vous dire, tiens, est-ce que ça, on l'a trouvé dans l'atelier ? Est-ce qu'on a trouvé des données qui représentaient ce module ? Premier module, ah oui, pardon, quand même que je vous montre l'organisation du tableau. Je vais passer en mode toc. On oublie les premières diapos. Vous allez la voir. Non, je vous montre la toute simple. Hein. Donc, il me faut, moi, pour raisonner, quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ben, d'un côté, j'ai, pour communiquer, il faut des signes. Certains de ces signes sont langagiers et d'autres ne sont pas langagiers. Quand vous nous avez montré vos mises en scène, il y avait plein de choses qui n'étaient pas langagières et qui faisaient sens quand même. Donc, il y a du non-langagier. Tout ça, ça appartient à une discipline générale qui est la sémiotique. Il y a une société dans laquelle ces discours sont produits. C'est la dimension socioculturelle. Ça, c'est le social. Le social des signes, le social du contexte. Il y a moi dedans et il y a nous en extérieur. Moi dedans, c'est ce qui est intrasubjectif. C'est ce qui est psycholinguistique. C'est des processus qui se déroulent dans ma tête, dans nos têtes. Et puis, il y a à l'extérieur nos interactions qui, elles, sont visibles, audibles, sont identifiables, alors que ce qui se passe dans ma tête, j'en sais rien, vous n'en savez rien. On peut en avoir quelques traces et faire des hypothèses, mais on est pour l'instant sur des conjectures, plus que des hypothèses. On est sur des conjectures. Mais on peut faire quand même des conjectures qui tombent pas trop mal, heureusement, parce que ça nous permet d'enseigner. Hein ? On va se servir des interactions visibles, audibles, celles qu'on déclenche, pour agir sur les processus internes, ceux qu'on ne voit pas, mais dont on fait l'hypothèse que les actions sont bien calibrées pour transformer ce que l'élève pense à l'intérieur. Ça nous donne déjà quatre éléments d'infrastructure, dont on ne tient pas suffisamment compte explicitement et qui ont pourtant une sacrée importance. Premier, le module, on va appeler ça module, j'emprunte le terme à Eddy Roulet, hein, le premier auteur dont je vous ai parlé. Le module interactionnel, qu'on peut définir de manière très simple, les textes sont des monologues, ou des dialogues, ou des polylogues quand il y a... Voilà. Et un monologue qui n'est pas interrompu, un monologue reste un monologue tant qu'il n'est pas interrompu, auquel cas il devient un dialogue, ou un polylogue. Et puis il faut bien des gens qui... travaillent sur ce polylogue, enfin qui produisent ce monologue ou ce polylogue, c'est des actants, des interactants, et une des caractéristiques importantes, c'est leur présence ou leur distance. Distance physique, distance temporelle, et parfois distance sociale. Par exemple, le fait de mettre vos élèves en petits groupes crée une distance entre vous et eux, alors que vous êtes présents simultanément dans la même salle. Est-ce que ce module-là, vous en avez vu des traces de fonctionnement dans les ateliers d'hier? Un ou deux exemples. Michel, allons-y. Donc dans l'atelier de Michel, oui. On est passé, oui, d'un monologue qui a été transformé en dialogue ou en polylogue. Oui. Dans les autres, on était dans un monologue. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de destinataire du discours? Il y avait un destinataire. Mais il n'était pas présent. D'accord? Il était distant. Et dans les règles d'écriture du site, il y avait bien... dit par Caroline Imbert, la responsable du site, qu'il fallait surtout pas que ça se passe devant la classe, parce que c'est un discours tellement personnel, tellement intime que tiennent les élèves, que c'était pas tenable devant les élèves d'une classe. Il fallait que ce soit, qu'ils soient isolés, qu'ils soient seuls face à la caméra. Donc, voyez comment le même discours face à la classe aurait été tout à fait différent de ce qu'il a été face à la caméra. Donc ces données-là, elles agissent sans qu'on sache qu'elles agissent. C'est pour ça que je les appelle des infrastructures. Si on est conscient, on anticipe le phénomène. Si on n'en est pas conscient, on se fait piéger complètement. On ne tient pas compte des situations. Pour Michel, par exemple, c'était intéressant parce qu'un monologue intérieur, c'est un monologue qu'on adresse à personne, qu'on adresse juste à soi. C'est-à-dire que c'était en fait un dialogue intérieur. Oui, si tu veux, mais Dieu c'est moi en l'occurrence. Enfin, c'est moi qui me tiens le monologue intérieur. Donc c'est un cas extrême où il n'y a pas d'interactant, mais en réalité on s'en refait un dans sa tête. On se dédouble exactement. Et d'ailleurs, on se parle à soi-même dans certains des textes. On se pose des questions à soi-même, etc. Donc on voit fonctionner ça. Et évidemment, dans le module de Loïc, dans l'atelier de Loïc, c'est pareil. Deuxième module, le module socioculturel. Est-ce qu'on a vu des traces dans les ateliers d'hier? Ça tient, le module socioculturel tient aux institutions dans lesquelles le discours est produit. Les institutions, c'est par exemple l'école, hein. Mais ça peut être dans l'atelier de Nadège et Jean-Paul, il y avait une autre institution concurrente de l'école. Voilà. Et exactement. Les deux, voilà. Et l'épreuve de baccalauréat, j'ai vérifié, est définie comme une interaction orale, pardon, comme une production orale en continu, ou une expression orale en continu. Or, expression orale en continu, c'était le cas pour vous, mais l'expression orale en continu des gamins qui produisent un discours personnel n'est pas du tout l'expression orale en continu des gamins qui produisent un discours pour le bac. C'est-à-dire que, en restant au niveau des activités langagières, on sous-détermine le type de texte qu'ils doivent produire, c'est-à-dire qu'on ne les aide pas à construire les compétences correspondant à ce type de texte. Il faut dire que cette interaction orale, que cette expression orale en continu est un exposé, par exemple. Bon, voilà, on a défini un genre, et on va définir en quoi consiste le genre, ou que c'est un discours intime, comme le discours d'Alexane, qui est totalement hors de propos face à un jury de bac, mais qui est tout à fait pertinent par rapport au site. Et donc on avait deux institutions qui se faisaient concurrence dans la même tâche, au point de produire des fois presque une distorsion et une contradiction. On est d'accord. Mais donc ces multiples aspects, c'est ce qu'on est en train de dessiner là. Hein, c'est ce qu'on est en train de dessiner, ces multiples aspects. On est en train d'isoler le contenu de multiples. Hein. On continue. Je vais passer rapidement parce que ça a été développé. Et là, vous trouvez les discours, les modes, les types de discours. On a parlé dans au moins deux des ateliers, type de discours de Jean-Paul Broncart, encore un Genevois. En gros, on définit les types de discours par un rapport au monde, qui est constitué de deux variables. Soit mon discours est impliqué, soit mon discours est autonome par rapport à la situation. Soit mon discours, dans mon discours, le temps dont je parle et le temps où je parle, temps d'énonciation et temps du procès dont je parle, sont conjoints. Ça va nous donner en général les textes au présent, hein, pour aller vite, pour aller très très vite. Soit c'est disjoint et ça va nous donner des narrations et des récits. On définit ainsi quatre types de discours, et ces quatre types de discours ont des caractéristiques linguistiques très différentes, extrêmement différentes. Si on n'est pas conscient du type de discours qu'on produit, aucune chance qu'on maîtrise les éléments linguistiques qui vont avec. Et les types de discours, on a vu par exemple, je reprends le modèle d'Alexane, qu'elle passe par exemple du celui qui est là, le récit impliqué, au discours impliqué. À un moment donné, elle bascule, elle dit je faisais ça, ou il m'est arrivé ceci, et maintenant, et voilà, elle passe à partir de maintenant dans un autre type de discours. Dans les différents modules de l'atelier de Loïc, on a le même genre de choses. On peut avoir des discours théoriques ou explicatifs ou délibératifs. Par exemple, si on fait une analyse de la situation géopolitique de la Colombie, on peut avoir des discours narratifs quand on fait l'historique des FARC. On peut avoir des discours impliqués quand on fait un débat autour de l'avenir des FARC. Voilà. Et on peut avoir du discours rapporté, du discours réfléchissant, quand on cite l'extrait de discours du président Calderón. Donc, maîtriser les types de discours, c'est un élément déterminant pour la qualité du texte qu'ils vont produire. Et enfin, le module sémiotique, c'est-à-dire des signes, signifiant, signifié, hein, saussure. Je rentre pas dans les détails. Par contre, ce qu'on oublie très souvent, c'est justement les supports. Ces signes, ils sont bien portés par quelque chose. Ils sont portés par le corps, par exemple. Mais ils peuvent être portés par des médiations technologiques. Et par exemple, lire un texte dans un livre et lire un texte sur Internet, c'est un type de lecture radicalement différent. Parce qu'on va avoir une lecture qui est contrainte par une sorte de déroulement linéaire dans un cas, et on va avoir une lecture hypertextuelle, par lien, où on va pouvoir passer d'une page à l'autre sans aller au bout de la page ou en lisant plusieurs pages à la fois. C'est radicalement différent. C'était impossible tant qu'Internet n'existait pas. Le support technologique a changé le type de lecture. Le discours oral avec la caméra, donc dans les news, dans ton atelier, tu peux nous en dire un mot, donc sur le discours médiatique dans ce type d'atelier. Oui, voilà, sur le genre hybride, ce que tu as appelé le genre hybride. Or ça, c'est les contraintes du média radio, qui sont pas les mêmes à la télévision. Pour les news, mais comme on voit des choses, on peut se permettre de bafouiller, on peut se permettre, disons, la contextualisation dans une émission laisse la place à plus de blanc, plus d'hésitation, etc. Donc, tout ça, donc, pourquoi j'appelle ça infrastructure ? Parce que c'est des déterminations du texte qui agissent sur la qualité du texte qu'on donne à produire aux élèves, et on se demande, si on n'est pas conscient de cela, pourquoi les élèves n'ont pas réussi leur production, et souvent l'analyse repose sur l'identification de ces éléments sous-jacents qui conditionnent le discours de manière implicite et inconsciente. Évidemment, c'est la même logique que par rapport au contrat pédagogique, au contrat didactique, etc. On va opérer les différentes étapes de la régulation, c'est-à-dire que on va isoler le module, l'objet d'analyse, on va essayer de le modéliser, de l'expliquer, de le théoriser dans une certaine limite, puis on va essayer de placer les élèves en situation de modifier ce paramètre de leur production, et on va évaluer, etc. Donc on est exactement dans la même démarche que sur, par exemple, le travail de groupe hier. Hein. Voilà, donc ça c'est nos modules de base. Je vais dire, les activités langagières là-dedans, on les a oubliées, elles y sont un petit peu, on vient de voir, texte écrit, oral. Eh bien, il y a des blancs dans les coins, et il y a des niveaux un peu plus conscients dans cette infrastructure. Ça, c'est les niveaux profonds de l'infrastructure. Et les niveaux plus conscients, je vais aller très vite, les niveaux plus conscients sont dans les blancs, dans les angles. Donc, voilà le premier, connu. Ah, zut, comment faire? Je sais pas comment vous le rendre plus visible. Peut-être fermer les stores, oui. Donc, chacun des modules que je vais vous montrer est fait, en fait, de la conjonction des deux modules à droite et à gauche. C'est-à-dire que dans cet espace, on a un objet d'analyse qui est la synthèse des deux objets d'analyse qui l'entourent. Donc, par exemple, les activités langagières, ben, c'est rien d'autre qu'un canal dont on voit la trace dans le module sémiotique, et que des positions communicatives dont on voit la trace dans le module interactionnel. Mais vous voyez que, en ciblant le niveau d'analyse sur les activités langagières dans le cadre européen, on squeeze les niveaux du dessous. L'activité langagière, c'est déjà la synthèse de choses dont on ne parle que très peu. Donc, il nous manque des éléments d'analyse pour savoir ce qui se passe dans les textes. Autre module, beaucoup plus conscient, c'est le module pragmatique, les activités pragmatiques, les actions. Ben lui, il est fait de la synthèse du module interactionnel, en haut, au nord, et du module socioculturel. On va avoir des acteurs ayant un statut social, ça renvoie à l'institution, jouant un rôle communicatif, ça renvoie à l'interaction. Et ces acteurs vont avoir des visées par rapport à des contextes. Et on va comme ça définir les tâches, les fiches de tâches, les fiches de rôle dans les démarches, dans les mises en situation, dans les tâches de synthèse. Quand on écrit la fiche de rôle, je ne sais pas moi, du producteur de café dans un débat sur le commerce équitable, on définit son statut, il est producteur de café, mais on va aussi définir son rôle dans la table ronde. Il a tel caractère, il intervient sur tel type d'argument, etc. Donc c'est ce que vous faites, c'est pour ça que je dis que c'est plus accessible, parce que vous le faites. Hein? Activité langagière, évidemment, c'est une évidence. Tâche de rôle, c'est exactement ce que vous faites dans vos tâches de synthèse. Vous définissez les rôles. Ça va? C'est clair? Vous me dites, hein, si ça marche pas. Évidemment, on va avoir un module linguistique. Un module linguistique ou linguistico-énonciatif, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on a des formes, une forme linguistique, mais ces formes linguistiques n'ont pas toutes la même valeur. Enfin, je veux dire que l'interprétation de ces formes linguistiques diffère selon les personnes, ce qui nous donne des valeurs différentes. Quand je dis quelque chose, je considère comme implicite que les gens en face de moi le comprennent, mais non, pas du tout. Ils le comprennent avec ce qu'ils sont, avec leurs critères d'analyse, leurs valeurs, leur expérience, leurs connaissances, etc. Et je contrôle rien du tout de ce qui se passe dans leur tête. Ils interprètent. Donc la valeur n'est pas contenue dans la forme. Et puis, qui interprète? Le locuteur ou l'énonciateur? L'énonciateur, il est dedans. L'énonciateur, c'est un processus interne. Le locuteur, c'est un processus externe. C'est un agent externe. Le locuteur, je l'entends, je le vois, etc. Donc, module linguistique qui fonctionne à travers ce prisme-là. Et enfin, on va avoir un module discursif ou textuel, dans lequel on va retrouver cette première définition qu'on avait donnée du genre, avec les deux types de structures du texte, soit des relations de subordination verticale, hiérarchique, soit des relations de linéarité horizontale, connexion entre mots, etc., où tout est à peu près au même niveau. C'est la structure dont on a parlé tout à l'heure, celle dont je vous ai dit. Ça suffit, dans un premier temps, pour définir le genre, et dans la plupart des cas, avec nos élèves, ça suffit. Voilà. Et puis, dernière chose, chaque texte, on l'a bien vu dans ton texte, dans les trois ateliers, chaque texte est composé de séquences qui ne sont pas forcément de même nature. On voit qu'Alexane, elle passe du récit impliqué au discours impliqué, et puis on a ça constamment. Donc ces séquences-là, elles s'agencent d'une certaine manière, et ça aussi est une caractéristique du genre. Voilà. Donc, quand on raisonne en termes de texte, notre pavé central, celui du genre, est le pavé, l'outil qu'on ne peut pas ne pas expliciter pour les élèves, sinon on en reste au niveau de la phrase. Mais c'est pas suffisant, et il faut voir au moins ces deux couches d'analyse en dessous, la couche verte et la couche orange. La couche orange étant la plus profonde dans les déterminations d'un texte. Donc quand on parle d'identifier les caractéristiques d'un texte, on a ça à faire, ce travail-là à faire. Et est-ce que, voilà, la question, l'enjeu des ateliers de hier matin, c'était, est-ce qu'on l'a suffisamment touché du doigt, ces éléments-là, et est-ce que ça ne vous apparaît pas complètement déconnecté de vos pratiques, cette analyse-là? Est-ce qu'elle correspond à des choses sur lesquelles vous pouvez mettre non seulement des mots, mais des phases de travail, des éléments d'apprentissage pour les élèves? On a vu ça finalement avec le travail de groupe hier, hein, dans l'atelier de Sophie et de Marion. C'est que quand on creuse un tout petit peu, on s'aperçoit que le travail de groupe, c'est un monde, hein, pour aller vite, qu'il y a un grand nombre de paramètres à prendre en compte. Et la solution, ben, c'est qu'on ne les prend pas tous en compte didactiquement en même temps. On va les isoler parce que tel type de texte se prête à isoler ce type d'éléments par rapport aux autres. Et peut-être que tel autre type de texte va permettre d'isoler d'autres choses. Quel peut être le module qui explique ça? Parce qu'on leur a appris à ne jamais dire « je ». Je veux dire, quand je dis « on », pas toi. Mais moi, je sais très bien que j'avais une règle dans les dissertations, c'est que le « je » était proscrit, c'était rédhibitoire. Il ne devait pas y avoir de parole personnelle. Il fallait que se débrouiller de quelque manière qu'on souhaite pour éviter le jeu. Il y avait une proscription du jeu. Oui, mais ça élimine quand même pas mal de choses dans ce que dit Nadège, mais c'est pas forcément voulu, c'est un effet. Et puis l'école, c'est normal qu'elle le fasse, puisque l'école, elle n'est pas censée reproduire l'expérience de la vie brute, dans laquelle justement le jeu va être constamment présent. L'école, elle est censée au contraire nous aider à prendre de la hauteur, à prendre de la distance par rapport à la vie. Eh ben, ça produit un type de discours plutôt dépersonnalisé. Alors, attention aussi de ne pas confondre les représentations que les élèves peuvent se faire des attentes. On retombe dans le contrat, là. Hein. C'est-à-dire que implicitement, dans leur tête, ils peuvent avoir des attentes, des représentations de ce qu'on attend d'eux, plus exactement, qui ne correspondent pas à ce que l'institution dit attendre d'eux. Donc on est dans des jeux de miroir. Hein. Voilà, donc je pense qu'il faut être prudent, disons, mais aller chercher sur cette difficulté-là, aller chercher des explications, entre autres, sur le module institutionnel, socioculturel, disons. Alors on peut le dire explicitement, et puis surtout il va falloir créer les situations pour que ça se passe, puisqu'on est toujours dans l'apprentissage par les situations. Oui, essayons, d'où l'importance de raisonner au-delà de ces 2 heures à soi, de raisonner dans le temps, puisque cette chose-là pourrait être construite dès l'école primaire, et de raisonner par rapport aux autres collègues au moins de langue, et ce qui impliquerait un travail de coordination qui implique d'objectiver les contenus qu'on enseigne. Hein. Et on va rentrer dedans avec l'atelier progression cet après-midi. Hein. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions, j'ai une dernière chose à vous dire par rapport à l'autonomie. Oui. Eh bien, il faut voir effectivement ce schéma. C'est un peu ce que j'ai voulu essayer de représenter comme une espèce de pyramide. Et le niveau qui affleure, comme un iceberg, si vous voulez, hein. Le niveau qui affleure, les 10% qui affleurent, c'est le genre. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit, c'est pour ça qu'il est bleu et blanc. Hein. J'essayais de représenter la glace. C'est les interactions entre les parties. Alors, il y a des questions de préférence personnelle ou de compétences personnelles des uns et des autres. Je crois que, par exemple, c'est Florence Coronel, hein, qui hier intervenait sur l'importance de... Enfin, c'est ce que m'a dit Colette, je crois. Sur l'importance du discours médiatique sur la caméra, etc. Voilà, donc, on est en plein dans, tu es d'accord, tu reconnais tes petits, là, dans ce module de gauche, hein, voilà, tu as cette compétence-là, et c'est évident qu'elle va la travailler en particulier, mais collectivement, il faut qu'on essaie de tenir compte un petit peu tout, hein, parce qu'on peut pas axer sur un seul pied. Et c'est la formation continue qui est la clé et le travail collectif qu'on va aborder demain. Parce que l'objet est tellement complexe et tellement vaste que c'est pas, comme le dit Marie-Carmel, les 2 heures d'espagnol de terminale qui permettent de résoudre le problème. Ça permet de toucher telle ou telle petite chose. Voilà. Alors, dernière chose, j'ai rajouté les capacités parce qu'il faut bien qu'on transforme ça en capacité. Capacité pragmatique, je vais vous donner un texte aussi là-dessus, ou Colette l'a peut-être fait passer, je ne sais plus. Voilà, fais-les passer. Donc il y a trois trucs différents. Oui. Ces capacités, c'est bien ce qu'on cherche à développer. Et vous voyez qu'on ne va pas chercher à développer des capacités trop pointillistes, dire on va les former sur le discours de Broncard, etc. On n'est pas en fac, on ne forme pas des profs de langue. Ou des futurs chercheurs en analyse discursive. Mais par contre, les capacités linguistico-énonciatives, il faut qu'on sache qu'est-ce que ça regroupe, et ça va regrouper des données, des paramètres de tout ce cadran en bas à gauche, et les autres aussi. Alors, on vous distribue un texte tiré de ce bouquin, il y a les références dessus, hein, pour un enseignement de l'oral, des Genevois encore, je suis désolé, mais Genève, ils sont vraiment bons. En plus, si on fait référence à Saussure et Piaget, absolument. Donc, on est dans. Voilà. Il faut aller. Hein? Tu fais partie du club. Je ne fais pas partie du club, moi. Je me nourris de leurs apports. C'est pas du pasteurisme, hein. On parlait de pasteurisation des esprits tout à l'heure. C'est pas du pasteurisme. J'essaye de le rendre accessible aux enseignants. Voilà. C'est tout ce que je fais. Alors, vous lirez ces textes. C'est pas la peine de les lire aujourd'hui. Ou enfin maintenant. Vous lirez ces textes tranquillement chez vous. Ça donne un aperçu de en quoi consistent ces capacités. Évidemment que tout ça va se synthétiser. Et cette synthèse, ça va donner les descripteurs que vous avez dans le CECRL, en gros. Hein. Si vous les analysez, c'est écrit de manière extrêmement empirique et extrêmement peu scientifique, ces descripteurs. Mais si vous les analysez, vous allez retrouver des éléments pragmatiques, des éléments discursifs, de temps en temps. Vous allez les retrouver, mais pas de manière systématique. Voilà. Donc, c'est quand même à s'en servir. Mais il faut savoir que c'est une formulation qui est... Voilà, un peu à l'emporte-pièce. Alors, je voudrais vous parler d'une dernière chose par rapport à l'autonomie. L'autonomie, c'est deux choses. Si je reste sur ce schéma, pour aller très vite, je vais avoir une définition horizontale de l'autonomie, c'est-à-dire l'autonomie, c'est la capacité à faire varier les paramètres dont je me sers pour produire ou interpréter un texte écrit ou oral. L'ensemble de ces paramètres, si idéalement je les maîtrise, j'accrois mon pouvoir, mon autonomie par rapport à l'activité langagière, mon activité langagière. C'est une première définition qu'on pourrait dire une définition en tache d'huile, d'une certaine manière. Vous voyez ? Donc, cette première définition de l'autonomie langagière, c'est la conscience des différents paramètres sur lesquels un texte est construit. Et on vient de le voir à travers cette carte. Donc, quand je vais maîtriser de plus en plus de petits modules, plus ou moins les maîtriser, au niveau d'élèves de lycée, on n'est pas, encore une fois, je me répète, avec des chercheurs, j'accrois ma compétence, donc mon autonomie par rapport au système, par rapport aux normes. Des textes aux normes. Et puis, il y a une deuxième définition qui, elle, correspond à la pyramide que je vais retrouver ici, vite fait. Voilà. Et cette définition de l'autonomie, elle, c'est pas en tache d'huile, c'est en degré de complexité des actions langagière que je suis capable d'accomplir. C'est-à-dire que si on me dit écris une carte postale, enregistre un clip pour le site 7 milliards, réalise une émission sur la mort du leader des FARC, ou bien écris un monologue intérieur en t'inspirant du tableau de Seurat, on me donne le niveau supérieur de la pyramide. Si on me dit, en écrivant, et moi comme élève, j'ai tout à mobiliser, tout à organiser pour réaliser cette tâche. On ne me dit rien d'autre. C'est typiquement une situation d'évaluation. Au bac, on peut avoir, avec les épreuves actuelles, mais dans les anciennes épreuves, il y a des choses comme ça. On vous dit ce qu'il y a à faire, et puis allez, débrouille-toi, tu fais. Tu dois savoir, tu as appris tout ça. Mais la situation d'évaluation n'est pas la situation d'apprentissage. Dans la situation d'apprentissage, je vais devoir accompagner, dans une certaine mesure, les élèves, avec une contradiction. Si je les accompagne trop, ils sont plus autonomes. Je leur dis ce qu'il faut faire, je les transforme en exécutants. Si je les accompagne pas assez, ben ils sont pas autonomes non plus parce qu'ils maîtrisent pas les composantes de la tâche. Si tu veux, ouais. Mais en fait, tout ton dispositif de séquence va consister à leur fournir petit à petit, les mettre en état de disposer des ressources qui leur permettent d'accomplir la tâche sans que tu leur dises ce qu'ils doivent mobiliser. On est bien d'accord. C'est exactement ça. Je ne peux pas les lâcher dans le bain en disant nage. Absolument. Je dirais plutôt une analyse, là. Si je ne sais pas à quoi je les prépare, je ne peux pas les y préparer. Alors donc on va pas trop se plaindre de ce que font les gens, on va essayer de se dire qu'on va essayer d'avancer le plus possible dans ce qu'on voudrait faire idéalement. Petit retour sur l'autonomie en quelques coups de cuillère à peau pour essayer de comprendre cette notion d'enseignement par les situations. Tout le monde connaît le triangle didactique, on nous rebat les oreilles de ça dans toutes les formations initiales ou autres, l'enseignant, l'élève, les savoirs. Le triangle didactique définit trois types de relations. En bleu, la relation prioritaire de l'enseignant et du savoir. S'il s'occupe que de cette relation, il transmet. En vert, la relation de l'enseignant avec l'élève. S'il s'occupe que de cette relation-là, il est dans le relationnel, on va dire, dans l'affectivo-relationnel. Et c'est le débat entre les pédagogues et les républicains, là, vous savez, entre Mérieux et... Alors, débat caricaturé, bien entendu. Il y a un point commun, c'est que ce qui nous intéresse à tous, me semble-t-il, ou alors on n'est pas enseignant, c'est le trait rouge, c'est-à-dire le rapport qui existe entre les élèves et le savoir. Si on définit la relation didactique, le triangle didactique, par ces trois éléments seulement... On est coincé parce que on ne comprend pas comment l'élève devient autonome. Ce n'est pas une modélisation adaptée à la construction de l'autonomie. Pour que on se représente l'autonomie, il faut absolument introduire un quatrième angle Et dans cet angle nouveau, sur cet angle nouveau, on va avoir affaire à quelque chose qu'on a vu et archivu, c'est là, et voilà, ça ne marche pas, oh là là, casse-pied, voilà, je suis obligé de le faire à l'artisanal, c'est au plat, c'est la situation. Et on a un losange didactique et non plus un triangle didactique. Du coup, quand j'introduis la notion de situation, je crée au départ sans m'en rendre compte, mais en analysant les pratiques des uns et des autres, on s'en rend vite compte, on crée un nouveau triangle didactique qui est entre l'élève, les savoirs, ça bouge pas, et la situation. C'est-à-dire que l'élève, par le biais de la situation, est confronté à des savoirs. Et que fait l'enseignant là-dedans ? Est-il hors-jeu, comme cela semble être le cas ? Ce qui correspondrait à la remarque qu'on a fréquemment, l'enseignant s'efface, l'enseignant disparaît, l'enseignant, voilà, il s'évapore, ce qui est un peu culpabilisant quand même pour des gens qui se disent « mais à quoi je suis payé alors si je m'efface ? Quel est le but ? Est-ce que je mérite vraiment mon salaire ?» Eh bien, en réalité, l'enseignant qui raisonne en termes de triangle didactique, son angle d'attaque privilégié, ça n'est plus directement avec l'élève, ça n'est plus directement avec le savoir, c'est sur les situations. Il intervient sur les situations qu'il crée, donc en ce sens, il est super interventionniste. Il ne peut pas y avoir d'enseignant plus interventionniste que cet enseignant-là. Il conçoit les situations de A jusqu'à Z, non seulement les contenus, mais l'évaluation, mais les situations de régulation et tutti quanti, tout ce qu'on a vu, le travail de groupe, les formes de travail. Il est super directif sur cette conception, de manière à ce que la situation, à un moment donné, fonctionne effectivement sans lui ou sans son intervention directe pour que fonctionne le nouveau triangle didactique élève, savoir, situation. Et définir le travail de l'enseignant dans la perspective de l'autonomie, c'est définir la capacité ou la compétence d'un enseignant à construire des situations d'apprentissage. Enseigner par les situations, un enseignement indirect qui est complètement rousseauiste. Je suis en train de lire les Mille, soyons modestes, j'en avais lu que des petits passages, et c'est exactement ce que nous dit Rousseau il y a 250 ans. C'est exactement ça. Eh bien, évidemment. Mais là, on est bien d'accord sur le fait qu'on parle d'un enseignant qui maîtrise ses paramètres de la situation. Ce qui implique une formation. Et ce qui implique un sacré travail sur soi, sur ses connaissances, arrêter avec les certitudes dont nous sommes bardés, en sortant avec un CAPES, une Y ou n'importe quoi, un tampon sur la fesse gauche ou droite. C'est la gauche, c'est la droite. Oui, ça ne m'étonne pas de toi. voilà. Et commençons à réfléchir réellement à la nature de cette relation didactique entre les élèves et nous. Voilà.